Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Toula Drimonis, qui est chroniqueuse dans plusieurs médias. Toula est aussi auteure d'un livre, Nous les autres, qui vient de paraître en français cette semaine. C'est la traduction du livre paru l'an dernier, We the Others. Bonjour, Toula.
Bonjour, Émilie. Comment ça va?
Ça fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous. Si les gens écoutent régulièrement Canada Land, ils vont savoir qu'on a déjà une discussion ensemble sur Shortcuts quand ton livre est sorti en anglais. Oui. Donc, ça fait vraiment plaisir de te à voir à Canada Land et cette fois-ci en français. Dans cet épisode, on va parler ensemble des dangers de blâmer la crise du logement et tout ce qui existe under the sun sur l'immigration. Et puis, des barrières distinctes auxquelles sont confrontées les femmes immigrantes au Québec et au Canada. Bienvenue à Détour.
J'ai aimé mon père, je l'admirais pour ce qu'il accomplit. Il comptait profondément pour moi et ma famille, mais aux yeux du monde, il était ordinaire. Le monde est rempli de gens comme lui qui ne sont pas assez importants pour qu'on écrive des articles ou des biographies à leur sujet. Ces réalités, ces défis n'étaient pas différents de ceux qui ont été vécus par tant de personnes avant lui et qui la seront par tant d'autres qui viendront après lui. Mais il a droit à cette existence ordinaire. Je me complais dans l'universalité de son histoire. On se réjouit du succès des immigrants extraordinaires qui ont apporté des contributions significatives à leur pays d'adoption. Bien que je comprenne le raisonnement derrière cette impulsion et que je sois reconnaissante qu'on expose des exemples de bénéfices concrets qui engendrent le fait d'accueillir des personnes chez nous, une partie de moi est également contrariée. En tant qu'immigrante ou d'enfant d'immigrante, j'ai besoin de sauver le monde libre pour avoir de la valeur. Dois-je développer un nouveau vaccin, devenir un vedette sportif, sauver une personne d'un immeuble en flammes ou travailler en première ligne lorsqu'éclate une pandémie? Dois-je être exemplaire de sorte à valider ma présence?
Merci pour ça. C'est un extrait d'un des premiers chapitres de « Nous les autres » où tu parles notamment, en fait, de ta famille, de ton père qui a immigré de Grèce et de ta mère aussi, qui ont immigré tous les deux au Canada alors qu'ils étaient encore très jeunes, et de la vie assez dure qu'ils ont menée avec des jobs pas faciles où ils ont travaillé toujours toute leur vie. Tu poses cette question-là de la validité essentiellement de la vie des gens ordinaires. D'abord, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir écrit ce livre-là?
Ben, je l'écris pour des raisons très personnelles. Tu sais, j'étais en deuil. Mon père venait de décider, puis je pensais à lui, je pensais à sa vie, puis en extension, je pensais à toute cette première génération, tu sais, des immigrants qui ont vécu vraiment beaucoup de défis, beaucoup de, tu sais, une vie difficile, beaucoup de travail. Quand je rappelle mon enfance, quand je rappelle mes parents, quand j'étais jeune, ils faisaient pas d'autre chose que de travailler. Tu sais, je me rappelle, mon père était toujours fatigué, tu sais, à son retour après le travail, comme beaucoup de migrants de première génération qui viennent ici, spécifiquement les gens comme mes parents qui ont venu ici avec pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup de ressources, tu sais, la première génération sont pas toujours comme ça. Ça, c'est ma réalité, la réalité de mes parents. Mm-hmm. Mais je voulais souligner, ces gens-là sont les gens invisibles souvent qui font cette ville aussi. Ils sont pas juste les gens qu'on connaît par nom, puis les vedettes. Les gens ordinaires. Puis je voulais rendre vraiment hommage à ces personnes-là. D'abord, pour moi, c'était quelque chose de personnel parce que mes parents, comme beaucoup d'immigrants de première génération, n'ont pas vraiment nécessairement la voix pour transmettre cette réalité-là. Puis moi, comme la fille d'immigrants, ben maintenant, comme je travaille comme journaliste, j'ai l'opportunité de le faire, de parler pour eux.
Mm.
Je trouve que c'est important de transmettre cette réalité aux gens qui connaissent pas vraiment.
Les gens connaissent pas nécessairement cette réalité-là, mais ils en parlent beaucoup. Une des raisons. En fait, je suis contente qu'on t'ait à l'émission parce que, pour que toute l'auditoire ait du contexte, tu as eu une très grosse semaine. Ton livre vient de paraître dans sa traduction française au cœur d'une autre tempête médiatique sur la question de l'immigration. Et donc là, c'est peut-être la semaine où ton livre aurait pu paraître, où il est le plus d'actualité dans un certain sens. Depuis le mois de janvier, la question de l'immigration est encore sous toutes les lèvres et c'est cyclique au Québec, ça arrive souvent. Sauf que cette fois-ci, c'est sur la question de la crise du logement, puis de plus en plus, tant au fédéral qu'au provincial, que des économistes des banques, qu'un ensemble de personnes qui disent « attention, il faudrait réduire les seuils d'immigration » et puis, se faisant, évacuent toutes les autres causes. De la crise du logement. Et donc là, ton livre et tu fais des entrevues un peu partout. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, d'abord, que ton livre soit traduit en français et surtout la réception que ton livre a depuis quelques jours, la manière dont tu t'insères, veux pas, là, depuis le début de l'année, dans les débats sur l'immigration qui sont repartis de plus belle au Québec?
Avant de répondre à ta question, je voulais juste souligner que t'as complètement raison quand tu dis que ce sont les sujets qui sont toujours cycliques.
Ouais,
hein. C'est un sujet qui est toujours l'actualité parce que je veux rappeler que mon livre en anglais a sorti la même semaine que l'ancien ministre des Migrations du Québec, Jean Boulet, est en train de dire que les immigrants, 80% des immigrants s'intègrent pas, parlent pas français, travaillent pas. D'abord, n'importe quand que le livre sortirait, j'ai l'impression que ce serait toujours l'actualité parce que c'est toujours un débat chaud ici au Québec. On parle toujours, comme tu as dit, des immigrants sans les immigrants.
Bien noté tout là.
oui. Pour répondre à ta question, ça signifie beaucoup de choses pour moi que le livre sort en français. Puis je veux souligner vraiment l'ouverture d'édition Somme Toute qui voulait vraiment c'est l'édition, mm-hmm. C'est l'éditeur qui m'approchait pour traduire ce livre en français. D'abord, ça donne l'opportunité pour plus de gens de lire mes mots, de comprendre une autre perspective que je pense est très important quand on parle d'immigration tout le temps, de comprendre les défis, de comprendre vraiment la réalité quotidienne d'un immigrant, puis de comprendre que le processus d'intégration, c'est sûrement pas une affaire de 6 mois. C'est quelque chose qui prend du temps, ça a besoin de patience, ça a besoin des outils. Ça appartient pas juste c'est pas le devoir juste des migrants de s'intégrer, mais c'est le devoir aussi de la société d'accueil d'être ouverte à la différence, puis de comprendre que ça prend du temps pour apprendre une langue, pour apprendre une culture, pour apprendre les références.
Tu as écrit notamment là-dessus, juste la semaine dernière, dans la Gazette, où tu écris « Quebec needs an informed debate on immigration », mais en même temps, c'est un débat qui est partout au Canada ensemble. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le fait qu'en ce moment, ce soit aussi chaud, vraiment partout au pays, la question de l'immigration?
Mais je trouve que ça est devenu vraiment, je vais utiliser une expression en anglais, je sais pas s'il y a l'équivalent en français, the perfect storm, tu sais, quand beaucoup de facteurs se rendent tout ensemble, on est en train d'avoir une expérience après la pandémie où everything is coming together, tu sais, c'est la santé, les soins médicaux, sont les sujets qui sont très complexes, que ça fait très longtemps que les gouvernements provinciaux puis fédéraux, on n'a pas vraiment mis les ressources puis le temps puis l'argent nécessaire. Qu'après la pandémie, après 3 ans de pandémie, it's like everything is falling apart. C'est pas de hier que ça date. Les gens qui prenaient le temps d'attendre vraiment les experts sur le sujet, ça fait des années, des décennies qu'ils parlent d'un manque vraiment de volonté de gouvernement de mettre l'argent, de mettre les ressources où c'est nécessaire pour les logements abordables, pour les soins médicaux, pour les enseignants, toutes les écoles. C'est pas d'hier. Tous ces sujets-là, sont complexes, ça fait des décennies, qui sont vraiment négligés. Je pense que ça est devenu encore plus chaud parce que, ben, ici au Québec, pas juste au Québec, c'est un peu partout au Canada aussi. On parle des immigrants parce que il y a quand même les politiciens puis les chroniqueurs qui ont trouvé vraiment l'opportunité, moi, je trouve, de cibler les immigrants puis de dire, ah, mais c'est la faute des immigrants. Ah, c'est la faute de demandeurs d'asile. Tu sais, tous ces gens-là sont venus ici puis ça a causé ces problèmes-là. Même si c'est pas la vérité, c'est un cible très facile parce que si tu connais pas vraiment le sujet, it's an easy button to push.
Oui, tout à fait. Lorsque tu parles de la réalité de tes parents, puis c'est pas le cas de tous les immigrants, là, mais tu parles d'une immigration qui est arrivée ici avec peu de scolarisation, qui a travaillé dans des jobs éreintantes toute sa vie. Avec le mode survie aussi que ça déclenche. L'injonction peut-être aussi de gratitude qui vient souvent avec ça par la société. Je veux dire, notre sort est mieux que ce qu'il était quand on a débarqué avec 50 $ en poche, donc on peut pas chialer. Il y a un ensemble de facteurs qui fait en sorte que c'est difficile d'entendre les voix de la première génération dans les médias, surtout des voix critiques. C'est comme si on entend des gens de la première génération, c'est souvent les modèles dont tu parles, les personnes qui ont des trajectoires de vie absolument extraordinaires où c'est difficile pour la plupart des gens de se reconnaître là-dedans. Mais c'est aussi des paroles de vie qui sont empreintes de gratitude envers la société d'accueil, la société majoritaire, et puis les réalités difficiles sont comme très difficilement nommables. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour augmenter la présence sincère et, complète des personnes immigrantes dans le discours médiatique au Canada? Est-ce qu'on est obligé que leurs enfants parlent pour eux ou il y aurait moyen aussi d'en faire plus pour que les immigrants eux-mêmes puissent prendre la parole dans l'espace public?
Non, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut... Je pense que ça appartient aux journalistes aussi d'approcher ces gens-là puis de poser les questions. Je trouve que souvent les documentaires ou les articles que j'aime le plus sont les où les journalistes prennent vraiment le temps sur le terrain de parler avec ces gens-là puis de montrer d'une façon très, très claire, très honnête comment les enjeux sont difficiles pour eux. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler pour eux puis on donne la voix à ces gens-là. Tout le temps, je vois les débats, des panels en ligne ou avec les médias traditionnels où on voit 4 personnes qui ont aucune idée de le sujet d'immigration, les gens qui ont pas vécu l'immigration, les gens qui sont pas les immigrants, sont pas les enfants d'immigration, qui sont pas les experts, pas du tout sur le sujet, qui sont en train de débattre sur le sujet d'immigration, un peu comme les panels qu'on voit de temps en temps, est-ce que le racisme existe, ou 4 personnes blanches sont en train de parler de est-ce que ça existe, le racisme systémique. C'est nécessaire de laisser les gens qui sont vraiment impliqués, qui ont une expérience personnelle, mais souvent, je trouve qu'il y a une réticence puis beaucoup de micro-agressions. Puis quand on laisse les voix des personnes qui sont pas vraiment impliquées dans ce sujet-là parler, ben leur perspective, c'est sûr que c'est pas une perspective toujours nuancée. C'est normal, je suis une chroniqueuse, une éditorialiste qui québécoise. D'abord, j'ai écrit la plupart de fois sur le Québec. Puis je reçois toujours les commentaires des gens qui disent « Mais lâche-là avec le Québec, pourquoi tu parles encore cette semaine du Québec? » D'abord, on sut attendre qu'avec cette question-là, que je suis pas une vraie Québécoise qui a le droit légitime de critiquer le Québec, sa maison, chez elle, sa propre gouvernement.
Dans le fond, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que non seulement il y a toutes sortes d'obstacles qui rendent difficile la parole des personnes qui sont elles-mêmes immigrantes, mais dans le fond, ta propre expérience comme personne née au Québec, qui a passé toute sa vie au Québec, mais avec 2 parents d'origine grecque, c'est que même ta propre voix dans l'espace public est considérée comme étrangère.
Souvent, oui.
Pas toujours, mais souvent, et qu'il va toujours avoir une partie des gens qui te lisent ou qui t'écoutent qui vont essayer de t'expulser symboliquement du Québec ou de remettre en question la légitimité de ta prise de parole.
Ouais,
donc finalement, c'est comme si nos parents se sont sacrifiés pour que ce soit plus facile pour la 2e génération. se l'est en partie, mais il y a encore des obstacles qui demeurent à notre prise de parole. Il y a quelque chose dans ton livre que je trouve très important aussi, qui, pas seulement dans ton livre, mais dans tes prises dans tes chroniques souvent. Lorsque tu dénonces, par exemple, les effets de certaines politiques linguistiques ou la hausse des frais de scolarité à McGill, à Concordia, ou les débats sur l'immigration, ce qui revient souvent comme thème, c'est la peur des conséquences sociales sur le vivre ensemble. C'est-à-dire que j'aimerais ça que tu me dises peut-être plus concrètement, si on continue comme ça, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver? Est-ce que c'est symboliquement les gens se sentent pas appartenir ou bien si c'est aussi comme matériellement, qu'est-ce que tu crois qui peut arriver si on change pas la manière dont on parle, soit de l'immigration en général ou des immigrants de manière plus précise?
Je voulais dire aux gens, d'expliquer aux gens comment ce discours-là quotidien nuise vraiment à cohésion sociale, puis plus la propre intégration des gens. Parce que si t'attends toujours, t'es pas vraiment, comme je dis dans mon livre, un Québécois en probation, il y a des gens qui essaient vraiment de limiter la définition de qui est vraiment Québécois et Québécoise. Si tu votes pas d'une certaine manière, si ta langue maternelle est pas vraiment français, t'as un problème encore. Si t'es quelqu'un qui est fédéraliste ou quelqu'un qui est contre la loi 21, contre la loi sur la laïcité, t'as trahi à quelque part la nation du Québec. Puis je trouve que cet discours est très, très dangereux. Ça empêche les gens de se sentir vraiment chez nous. C'est un danger. Puis c'est un danger pas juste pour les immigrants ou pour les enfants issus d'immigration. C'est un danger pour la société d'accueil aussi. Parce que, pense-y, si tu es quelqu'un qui habite dans les régions, puis jour après jour après jour, tu lises les journaux, les chroniques qui disent, qui parlent d'un noyade démographique, qui parlent des immigrants comme une menace à notre culture, notre langue, notre vie, tu vas finir par le croire. Tu vas en avoir une inquiétude linguistique et culturelle qui n'est pas nécessairement vraie. Tu vas créer cette inquiétude qui va empêcher les gens, la majorité qui est en train d'accueillir les gens, d'être ouverte à la diversité. Ça crée des vrais problèmes. Puis, comment c'est un problème? C'est un problème parce qu'on a besoin, le Québec a besoin d'immigration.
Donc, c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème pour les immigrants eux-mêmes, mais c'est un problème pour
Oui, mais je parle de Québec, mais c'est clair que c'est un problème de partout.
C'est un problème pour la majorité aussi.
C'est un problème pour la majorité parce que on a une population qui vieillit vraiment très rapidement, puis on a besoin de l'immigration pour notre croissance économique. De dire que les immigrants sont maintenant une menace, c'est pas juste ridicule, mais c'est banal comme discours parce que c'est même pas comme original.
Non, c'est pas nouveau.
Non,
c'est
pas
nouveau,
tout.
Mais ça fait mal, mais ça n'a pas empêché non plus les gens d'être là. Donc, merci pour ça tout là.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tula, à Détour, on aime prendre un moment de nos deux segments pour souligner des histoires qui ont attiré notre attention. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
Il y a un texte de The Walrus par Nicole Dirks qui s'appelle « Invisible Lives, Meet Canada's Undocumented Kids ». Puis c'est avec les images de Cindy Blazowicz. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est un texte qui parle de entre 20 000 ou presque 500 000 enfants migrants qui sont sans statut, sans papier, qui existent ici au Canada. C'est intéressant parce que souvent dans le débat, on parle de dreamers, tu sais, les dreamers aux États-Unis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a presque un demi-million d'enfants de parents sans statut qui ont pas le statut légal, qui ont pas, même s'ils sont scolarisés ici, vit ici ont pas le droit d'aller à l'université avec les tarifs locales, tu sais, préférentiels. C'est une réalité dure pour ces enfants-là. C'est comme un no man's land. Il existe, mais il existe pas, avec pas vraiment les mêmes droits. Puis on parle pas assez de ça. Je trouve que c'est un texte formidable. Je trouve les images de ces enfants-là qui sont un peu cachées, la face était cachée, très touchant. D'abord, c'est un texte que je recommande que tout le monde lise.
Bien noté, tout là, on va aller lire ça.
Et puis toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
Cette semaine, je suis un peu, je ne veux pas dire mélancolique, mais je réfléchis beaucoup, c'est le début du mois d'Histoire des Noirs. Et pour moi, chaque année, il y a toujours plein de, disons, d'engagements professionnels, des conférences, des activités auxquelles je veux juste participer aussi. Beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent. Puis, je dis mélancolique parce que je réfléchis à tout ce qui s'est passé depuis 4 ans, presque maintenant, depuis la mort de George Floyd. Puis, je vois vraiment à quel point, tant dans le discours public que dans les politiques publiques, que dans les médias, c'est comme si il y a eu une espèce d'effet de mode là, autour de 2020 où on s'est mis à parler des enjeux qui ont toujours existé depuis longtemps, dont la violence policière et tout. Puis il y a eu quand même depuis 4 ans une augmentation de la représentation des personnes noires dans certains espaces. Il y a eu des gens qui ont eu accès à des lieux de pouvoir. Mais en même temps, je suis un peu bittersweet parce que je constate aussi que alors que ce qui s'est passé en 2020, c'était parti de réalités des classes populaires qui vivent énormément de criminalisation, de harcèlement de la part de la police. Je trouve que là-dessus, qui était comme la base, il y a eu soit très peu de progrès ou même des reculs. Puis il n'y a pas encore la réforme, par exemple, du système de justice criminelle au Canada, ça fait encore attendre, mais il y a plus de noirs sur les publicités de banque, si je peux caricaturer comme ça. Donc je pense qu'on a assez de recul sur 2020 et sur la génération Black Lives Matter en général pour faire... Mmh. Commencer à réfléchir à l'éventail des acquis qui ont été faits et des échecs aussi, des mobilisations ratées, qui je pense que ça rejoint un peu certains thèmes dans ton livre. C'est comme si la dimension de la classe sociale a été évacuée un peu, puis c'est comme si, et je vais m'inclure là-dedans, les personnes noires qui avaient le plus peut-être de privilèges ont eu des opportunités, mais les gens dans le hood... sont pas mieux en 2024 qu'en 2020. Au contraire, avec toute la précarité économique qu'on voit en ce moment. Donc, je réfléchis à ça. J'ai pas de conclusion, mais c'est ce qui m'habite en ce moment. Et ce que j'aimerais, j'inviterais les gens qui ont des voix dans les médias, qui sont des personnes noires, à réfléchir aussi à ça. Soit dans l'espace public, soit dans les événements, ou peu importe, durant le mois de l'Histoire des Noirs, puis qu'on fasse cet exercice d'introspection-là ensemble dans les prochaines semaines.
C'est bien noté.
Dans ce prochain segment, nous discutons de violences à caractère sexuel et de violences basées sur le genre. Si tu es à la recherche de soutien, tu trouveras un lien vers des ressources au Canada dans la description de l'épisode. Tu l'as, je voulais souligner avec toi un bout de journaliste que je trouve vraiment exceptionnel dans les derniers jours. Ça vient du Devoir, et là, je le dis, il y a un conflit d'intérêts. Je dis pas ça parce que je suis chroniqueuse au Devoir. C'est vraiment extraordinaire de voir l'enquête qui a été menée par Sarah Champagne et Félix Deschênes, qui ont pris le temps de récolter des témoignages de femmes immigrantes qui sont victimes de violences conjugales. Et le 29 janvier, il y a eu un nouveau balado du Devoir qui a été publié qui s'appelle « La double tour ».
Je m'appelle Sarah Champagne, je suis reporter au Devoir et je couvre souvent des questions d'immigration. Il y a plusieurs mois, j'ai reçu le message d'une femme d'origine mexicaine, Yvonne Fuentes. Son message disait « J'ai été parrainée par mon conjoint québécois. Peu de temps après notre arrivée avec mes filles à Granby, il a commencé à changer. J'ai vécu de la violence conjugale, je suis marquée pour toujours. » Elle me disait « Je veux que les autres femmes sachent ce qui m'est arrivé pour pas qu'il leur arrive la même chose. »
J'ai pensé que mon histoire, ce n'est pas la unique et que c'est super important à partager
C'est assez rare que les immigrantes s'ouvrent sur un sujet aussi difficile et délicat que la violence conjugale, qu'elles le fassent à visage découvert comme Yvonne ou anonymement comme d'autres. Ça fait plusieurs années que la parole des femmes se libère, comme dans le mouvement Moi aussi, et je me suis fait la remarque qu'on n'avait peut-être pas encore entendu la voix des immigrantes.
J'avais envie d'y réfléchir avec toi parce que tu as aussi beaucoup écrit sur les questions de féminisme. Mais la question que j'ai envie de te lancer, c'est toi, dans tes propres recherches, dans tes propres travaux, est-ce que tu as vu aussi ce problème-là spécifique de violence faite aux femmes et l'immigration, ou même dans ton propre vécu ou dans ta propre communauté?
Tout à fait. Puis moi aussi, je veux souligner vraiment le travail de Sarah Champagne. Je pense qu'elle fait vraiment un bon travail. Puis j'étais vraiment contente de voir dans le média traditionnel de parler de ce sujet-là, parce que je vais te dire quelque chose. Oui, j'ai écrit souvent sur le féminisme, mais j'ai écrit souvent sur le féminisme intersectionnel. Ça fait un décennie, ça fait 10 ans que j'ai écrit une série sur ce sujet-là, pour Ricochet, où j'ai eu des entrevues avec les femmes puis les travailleuses sociales qui travaillent avec ces victimes de violences conjugales, qui sont les immigrants ou les personnes sans statut, qui sont dans une situation très, très précaire. J'ai passé la journée avec, à ce temps-là, avec, je ne sais pas si tu connais un organisme ici à Montréal qui s'appelle Shield of Athena.
Okay, oui.
Qui a commencé avec la communauté grecque.
Ça fait plusieurs décennies qu'ils sont là,
oui,
là, ça fait longtemps.
Plusieurs décennies, oui, je ne sais pas exactement.
Qui est un organisme qui, à la base, offrait des services pour les femmes dans la communauté grecque. Puis maintenant, c'est beaucoup plus large que ça en termes de leur mission sociale.
C'est beaucoup plus large que ça. Ils embauchent vraiment les traducteurs puis les personnes qui sont capables de communiquer avec eux dans leur langue propre. Je me souviens très bien à ce temps-là, quand j'ai passé mon temps de parler avec Melpa Kamateros, qui est la directrice, qui me disait comment c'est... Tu sais, la violence conjugale est très complexe comme sujet quand c'est juste avec les gens majoritaires. Quand on parle de gens victimes de violence conjugale qui ont les barrières linguistiques, culturelles, religieuses, sont les gens qui sont beaucoup, sont isolés souvent, sans famille, sans communauté. C'est les gens qui connaissent pas les lois. On rentre dans un problème qui devient encore 1000 fois plus complexe. Ça fait pas très longtemps que j'ai eu une autre entrevue avec le Shield of Athena, très récemment, pour une chronique que j'ai écrite. Ils sont en train de bâtir une maison d'hébergement pour ces victimes de violences, femmes immigrantes au Laval. Ils sont en train d'avoir une levée de fonds. Ils reçoivent tellement de demandes pour l'aide d'autres organismes québécois qui n'ont pas les ressources, n'ont pas les moyens, n'ont pas l'expertise de travailler avec les femmes immigrantes qui ont demandé l'aide de le Shield of Athena parce que ils comprennent pas les enjeux, tu sais, ils comprennent pas les enjeux de religion, de langue, de culture qui nécessitent vraiment une expertise.
Tu lignes, je pense, un aspect important dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent, c'est quand on parle de la société d'accueil, les gens, les ressources pour accueillir les nouveaux immigrants, souvent, les gens qui connaissent pas ça, leur imaginaire tout de suite, c'est que la société d'accueil, c'est la société majoritaire. Alors que, puis moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à faire du bénévolat dans les organismes qui ont été fondés par la communauté haïtienne. Puis la vérité, c'est que les demandeurs d'asile qui viennent bien, notamment d'Haïti, mais aussi beaucoup du continent africain ou de l'Amérique latine, c'est des organismes haïtiens qui sont en train de les accueillir depuis plusieurs années. Puis ce que tu soulignes aussi, c'est que c'est souvent des vagues d'immigration moins récentes qui ont construit des infrastructures pour aider les leurs. Et puis qu'à la fin, ce sont ces gens-là qui ont développé l'expertise sur comment immigrer au Québec 101, 201, 301. Et puis que ce sont ces gens-là qui finissent par être la société d'accueil de manière concrète, là, qui ont les ressources, l'expertise pour accueillir des immigrants. Donc, en fait, c'est souvent des immigrants plus anciens qui accueillent les nouveaux arrivants. Puis quand on parle de la société d'accueil, on se dit souvent la société d'accueil majoritaire, alors que dans les faits, les ressources pour accueillir des nouveaux immigrants viennent souvent avec l'immigration d'avant et non pas de la société majoritaire en tant que telle.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste... Oui, ça peut qu'il y a la volonté d'aider les gens qui rentrent, tu sais, de sa société majoritaire ou les autres organismes. La réalité, c'est que souvent, il manque cette expertise qui est nécessaire, cette connaissance d'une culture, d'une langue qui est vraiment nécessaire pour les enjeux qui sont tellement complexes comme celui-là nous sommes en train de parler. Puis je pense que c'est important de comprendre vraiment la nécessité d'avoir les ressources, l'argent pour ces organismes-là.
Un autre aspect qui ressort notamment du travail du journalisme qui est paru cette semaine dans Le Devoir, c'est la question des catégories d'immigration et de la manière dont les femmes qui sont victimes de violences de la part des personnes qui les parrainent.
Oui.
Lorsqu'on cherche à s'autonomiser ou à couper les ponts avec une personne qui nous violente, mais qui, qu'on est réfugié, soit qu'on est dans la réunification familiale, ça complique énormément soit l'accès au statut d'immigration. Il y a des moyens de le faire, mais ça prend des avocats. Ça peut être très compliqué au niveau bureaucratique de s'autonomiser par rapport à des personnes qui nous parrainent dans leur venue au Canada. Donc, c'est un enjeu très concret dont aussi, si on ne connaît pas ces réalités-là, c'est juste un exemple de ce dont tu parles. Si on ne connaît pas ces réalités-là, on ne saura pas aussi que, finalement, une des meilleures façons d'aider ces gens-là, c'est des réformes du système d'immigration dont on ne connaît pas les rouages si on ne l'a pas vécu soi-même ou si des proches autour de toi ne l'ont pas vécu.
Ouais.
Tout là, dans ton livre, tu parles des enfants de deuxième génération, surtout souvent les filles aînées. Mm. On dit souvent en anglais « The strongest man is the eldest daughter ».
Je pense que ça va être mon prochain livre. Je veux vraiment
c'est ton prochain tatou. mais je parle de ça parce que quand je t'entends parler notamment des femmes immigrantes ou juste de... C'est que je sens... Peut-être cette petite fille-là qui a dû être, vieillir rapidement, hein, comme souvent les enfants des migrants,
ouais.
Et prendre la responsabilité de devenir des traducteurs, non seulement de linguistique, mais aussi des traducteurs culturels, des traducteurs politiques, pour défendre des réalités qu'on voit autour de nous, mais que les adultes de l'époque ne pouvaient pas nommer. Puis je pense que ça fait partie de ton courage, de la force de ta voix sur l'espace public, mais c'est aussi, ça peut être lourd à porter, de continuer, même dans sa vie d'adulte, d'être cet enfant-là suradultisé, on va dire ça comme ça, très jeune, qui sont souvent la réalité des enfants issus d'immigration, et particulièrement des femmes. Comment est-ce que ça nourrit ce vécu-là? Comment est-ce que ça nourrit la prise de parole que tu as aujourd'hui en tant que femme? Comment ça nourrit ton instinct, ton impulsion à continuer à faire ce travail-là de passeuse, traductrice culturelle, politique pour les gens de ta communauté et des autres communautés aussi?
Mais à cause de ça, je pense que je suis devenue vraiment forte, tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui I don't back down. J'essaie de répondre aux gens. Si je trouve qu'il y a quelque chose que je lise qui est injuste ou une déclaration que je trouve vraiment pas logique ou sans vraiment cœur, ou les gens qui ciblent très facilement les immigrants ou les gens qui sont dans une situation très précaire. On laisse trop d'espace médiatique aux extrêmes, de deux côtés. Je parle pas de partout, au Canada, au Québec, des gens qui incitent vraiment la haine ou incitent la inquiétude, puis on laisse trop d'espace sur ces gens-là, mais la réalité quotidienne est vraiment banale puis très... Oui, nous avons les enjeux, nous avons des problèmes, mais je pense qu'il y a quand même un respect puis une ouverture. Souvent, quand je parle avec les Québécois, Québécoises ordinaires, il y a une ouverture à comprendre plus. C'est ça ma réalité. Une ouverture de poser des questions, puis de comprendre mon perspective. Puis je pense que c'est nécessaire de parler, de donner une voix à ces pensées pour laisser les autres gens sentir libres de faire la même chose, puis de dire « Hey, moi aussi, je me sens comme ça ».
C'est cette ode-là aux gens ordinaires et à l'extraordinaire dans les moments ordinaires du quotidien. Donc, c'est un peu l'extrait sur lequel on avait commencé et sur le fait que si on laisse des gens finalement ordinaires vivre leur vie tranquille, souvent, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour la paix dans la société. Laisser les gens normaux faire leurs affaires. Puis quand on fait ça, souvent, on réalise que les points d'empathie sont plus faciles à trouver que ce qu'on pensait.
Tout à fait.
Merci beaucoup pour ça, tout là. C'est tout pour Détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver aussi sur X à CanadaLand et m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Si les gens veulent te trouver, tout là, d'abord, ils peuvent trouver ton livre.
Édition Somme Toute, puis je pense que c'est disponible maintenant dans toutes les librairies Québec, partout au Québec. Puis oui, The Others est disponible aussi en anglais pour les gens au Canada, au reste du Canada, si on veut le livre en anglais, par Linda Leith Editions en ligne.
Puis si les gens veulent trouver tes chroniques ou ce que tu fais comme journaliste, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Chaque semaine, j'ai écrit une chronique pour The Montreal Gazette en ligne, puis un journal chaque vendredi. J'ai écrit une chronique chaque semaine pour Cult Montreal, puis j'ai écrit une chronique mensuelle pour The Walrus aussi.
Carrément. Donc, finalement, partout.
Partout.
Partout. Vous pouvez trouver tout là. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Merci de soutenir CanadaLand.